Fin du plan Orsec-feu de forêt de niveau 2 à l'île des Pins. Un incendie d'ampleur qui a dû être traité durant près de 2 semaines. Il est désormais maîtrisé et éteint. Le salon des antiquités et des collections se termine ce soir. 2 journées pour découvrir des passionnés qui avaient pris leur quartier dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. La féerie de Noël sur la place des Cocotiers. Tous les soirs, des animations et des illuminations à retrouver pour ramener la magie des fêtes de fin d'année. L'actualité nationale avec le monde agricole qui poursuit ses actions. L'abattage de troupeaux pour éviter une épidémie de dermatose a ravivé les tensions avec le gouvernement. À l'étranger, Charles III va mieux et le roi d'Angleterre s'est exprimé pour annoncer la bonne nouvelle dans le traitement de son cancer. Le sport, les handballeuses françaises et la calédonienne Suzanne Wojcicka vont tenter de conquérir le bronze mondial. Elles affronteront ce soir les néerlandaises pour la 3e place. Et en Calédonie, du basket avec les finales du championnat territorial. Après le sacre de Dimbéa chez les messieurs, demain soir, les joueuses du Mont-d'Or retrouveront celles de Rivière-Salée pour le 2e acte. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité en Calédonie, la fin des 2 feux de brousse qui sévissaient depuis plusieurs jours sur le territoire. L'incendie de l'île des Pins tout d'abord, qui sévissait depuis près de 2 semaines et qui avait ravagé près de 2000 hectares de végétation. Il est désormais éteint grâce à des conditions météo propices et notamment un épisode pluvieux qui a aidé à parfaire le traitement des points chauds. Le dispositif Orsec-feu de forêt de niveau 2 a été levé à 17h ce soir. Le point avec le capitaine Rossignol, officier de permanence à la sécurité civile.
On a bénéficié d'un petit passage pluvieux sur l'île des Pins ce matin, qui a permis en fin de compte de finaliser l'extinction des points chauds. Après reconnaissance qui a duré 3 heures sur site avec les drones et caméras thermiques, le feu de l'île des Pins est éteint, officiellement éteint, avec plus aucun risque de reprise, ainsi que le feu de Koumac. On avait 3 chantiers sur Koumac, à Chagrin, La Crinière et à Boulewan. Les 3 feux sont aussi éteints. Alors, les équipes sur l'île des Pins seront rapatriées ce soir par Betticho et vont être redispatchées sur l'ensemble du territoire, parce que la carte de vigilance météorologique, il y a des zones qui sont en orange au risque feu de forêt sur la zone de Boule-Paris. Donc, on va faire une clé de répartition de nos effectifs et des effectifs en renfort entre Koumac, Koné et Boulou-Paris dans la journée de demain. L'idée, c'est de vraiment s'adapter et de se coller au mieux à la carte prévifeu, est en capacité d'apporter une réponse rapide et massive.
Le capitaine Rossignol, officier de permanence à la sécurité civile, qui répondait à Kélinda Boicou. Les pompiers et les équipes de la sécurité civile étaient à pied d'œuvre durant plusieurs jours sur l'île des Pins. Les opérations auront mobilisé pendant 15 jours des moyens humains et matériels exceptionnels, avec notamment plus de 1500 largages réalisés par les hélicoptères bombardiers d'eau. Il s'agit du plus important feu de forêt enregistré depuis celui de la montagne des Sources en décembre 2005. Au chapitre politique, le congrès de l'UNI s'est tenu hier à Bouraï, en présence notamment de Jean-Pierre Djaïwe, Charles Wachetine, Claude Gambet, Louis Mapou pour le Palika, Victor Tutugoro pour l'UPM ou encore Steve Laigle pour l'UNID. Les membres de l'UNI ont annoncé qu'ils feront un bilan de ce congrès de Bouraï demain dans l'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Ouvrons justement l'agenda de la semaine qui commence demain, semaine importante pour le monde scolaire de Nouvelle-Calédonie. Lionel Sabot.
Effectivement, puisque nous entrerons demain dans la toute dernière semaine de l'année scolaire 2025. C'est en effet vendredi prochain, le 19 décembre, que débuteront officiellement les grandes vacances. Avant cela, se dérouleront les épreuves de rattrapage des examens. C'est aussi cette semaine que seront communiqués les résultats du diplôme national du brevet que l'on appelait au siècle dernier de mon temps le brevet des collèges. Vendredi prochain, ce sera donc le début des vacances de l'été austral qui dureront très précisément 58 jours. En effet, la rentrée scolaire 2026 aura lieu le 16 février. Une semaine qui sera riche en actualités politiques et institutionnelles. Au chapitre politique, une délégation du nouveau FLNKS est en route pour Paris pour une mission qui devrait durer toute la semaine. La délégation emmenée par Christian Théin doit rencontrer les groupes parlementaires. Elle souhaite aussi être reçue par le président de la République. Toujours dans l'actualité politique, mais cette fois-ci en Calédonie, c'est demain que se tiendra au Mont d'Or le comité directeur du Rassemblement. Au chapitre institutionnel, plusieurs rendez-vous la semaine prochaine. Dans les communes, le conseil municipal de Nouméa se tiendra mercredi en fin de journée. Le conseil municipal de Dimbéa se réunira lui jeudi avec l'examen du budget primitif 2026 de la commune. Au niveau provincial, la l'Assemblée de la province Nord est convoquée mercredi pour l'examen notamment de la décision modificative numéro 4 du budget 2025. Enfin jeudi, ce sont les élus du Congrès qui se retrouveront pour une séance publique. Samedi prochain, pour préparer les fêtes de Noël, se tiendra sur le site de Coécara un grand marché solidaire organisé par la fondation Xéré de Prony Ressources. Les stands seront ouverts entre 5h30 et 19h.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Christopher Gigès qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir, le porte-parole du gouvernement, en charge également de l'économie, du budget et des comptes sociaux, a été notamment interrogé sur la préparation du budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie. L'émission est également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et demain matin, 7h30, c'est Jean-Michel Calba, le président du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invité du matin.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, le troisième salon des antiquités et des collections qui referme ses portes ce soir dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, avec 25 exposants pour présenter leurs plus beaux objets du passé. Pour Jean-Pierre Bressler, responsable de l'organisation, le bilan est satisfaisant.
Donc le premier jour, il y a eu une bonne fréquentation, donc aussi bien en matinée qu'en après-midi. Et puis aujourd'hui, dimanche, disons que c'est plus calme. Il y a eu un peu de monde ce matin. Alors, les gens sont venus déjà dans un premier temps pour voir ce qu'il y avait comme antiquité, mais aussi les collections. Il y avait des collectionneurs de philatélie, de pièces, de coquillages. Donc les gens surtout ont posé des questions sur les antiquités, sur ce qu'il y avait en Calédonie avant, en objets anciens. Il y a eu des achats pour les cadeaux de Noël, des achats compulsifs, il y a des coups de cœur, des achats pour des collectionneurs. Donc chacun est reparti avec un cadeau, quoi. On est satisfait dans l'ensemble puisqu'il y a eu quand même de la fréquentation.
Un événement qui se déroulait donc durant deux jours dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Sur la place des Cocotiers, le marché de Noël de la Chambre de métiers et de l'artisanat a ouvert ses portes hier au pied du Grand Sapin. Il est ouvert tous les soirs de 16h à 21h jusqu'au 23 décembre prochain. Et par ailleurs, depuis le coup d'envoi de la fête de la lumière ce samedi, un programme d'animation vous attend tous les jours avec un spectacle gratuit et familial tous les soirs au kiosque à musique. Ce soir, ce sera le spectacle Correspondance de la compagnie de l'eau salée. Aurélie Auduro est chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
On présente un spectacle de théâtre et de danse de la compagnie de l'eau salée, donc ça s'appelle Correspondance. Et cette fois, c'est entre la Bretagne et le Pacifique, on a deux enfants qui échangent des lettres, des cartes postales, plein de choses. Et en fait, sur scène, c'est la danse dialogue avec le théâtre et les sons qui deviennent une matière vivante. C'est un spectacle très poétique qui célèbre l'amitié, l'échange, la magie et bien sûr l'imaginaire.
Le spectacle Correspondance de la compagnie de l'eau salée a retrouvé ce soir au kiosque à musique sur la place des Cocotiers à partir de 18h.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et voilà bientôt trois semaines que notre opération Au cœur de Noël est lancée sur RRB. Au cœur de Noël, c'est l'occasion d'apporter ce que vous souhaitez pour donner aux plus démunis. Un geste d'attention, de solidarité qui va permettre aux familles en difficulté cette année d'offrir à leurs enfants des cadeaux. Et ce, pour que Noël soit une fête pour tous. Tout ce que vous nous apporterez sera redistribué aux familles que suivent nos partenaires, la Croix Rouge, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul avec le concours de la table ronde française. Il est 17h passé de 54 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde. Et le pape qui est espéré prochainement en métropole pour une visite dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. À tout de suite.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent de Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, au 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Mickaël Juneski.
C'est une venue attendue par les catholiques de métropole, celle du pape Léon XIV. Le pape François avait effectué 3 voyages ces dernières années en métropole, Strasbourg en 2014, Marseille en 2023 et Ajaccio en 2024. La communauté catholique espère surtout lui faire découvrir Notre-Dame de Paris, fraîchement rénovée. L'édifice accueillait notamment plus de 2500 personnes lors de la béatification de 50 martyrs catholiques tués par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le reportage de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Relevé de ses cendres après un terrible incendie, la grandiose cathédrale de Paris attend toujours la visite du souverain pontife. Le pape François n'était pas venu lors de sa réouverture, mais son successeur, Léon XIV, pourrait se rendre prochainement à Notre-Dame, confirme à Europe 1 l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich.
J'ai invité le pape Léon XIV dans la cathédrale parce que je crois que lui, il a très envie de venir et voir Notre-Dame de Paris, comme beaucoup de gens.
Il va être impressionné, le pape, par votre cathédrale?
Ah, on va lui laisser le dire quand il viendra.
Pour les nombreux fidèles, comme Jean, qui se presse sous le portail du jugement dernier, la venue probable du pape à Notre-Dame suscite une vive espérance.
S'il vient, ça sera merveilleux. Oui. Il fallait pas, ils sont rarement venus à la cathédrale de Paris, hein. Donc c'est une occasion unique.
Le dernier pape à s'être rendu à Notre-Dame de Paris, c'était Benoît XVI, il y a 17 ans. Pour Bertrand, il est grand temps qu'un pape revienne dans la capitale afin de montrer son affection pour la France.
Je l'attends, merci, dépêchez-vous. Il représente beaucoup de choses, donc c'est un trait d'union entre plusieurs générations de papes, donc ouais. C'est une belle chose pour nous. Et vers une belle cathédrale.
Aucun déplacement n'est pour le moment inscrit à l'agenda du pape, mais les fidèles espèrent pouvoir l'accueillir en 2026. À Notre-Dame de Paris, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
En métropole toujours, la colère ne retombe pas chez les agriculteurs. Plus de 24 heures que les éleveurs bloquent une partie de l'autoroute A64 dans le sud-ouest de l'Hexagone. Ils manifestent contre l'abattage de leurs troupeaux infectés par la dermatose nodulaire bovine. Un cas détecté et c'est tout le cheptel qui est euthanasié. Pour lutter contre la propagation de la maladie, le protocole prévoit en effet l'abattage systématique de toutes les bêtes des foyers infectés. Un épisode qui a réveillé les tensions entre les agriculteurs et le gouvernement. Bertrand Loup est l'un des leaders du mouvement.
La DNC, c'est un élément déclencheur. C'est une demande en fait, de changement de protocole. On va arrêter ces abattages systématiques, que l'État prenne en compte nos propositions en fait. Sur le reste. L'élément déclencheur fait qu'on soulève tous les autres problèmes qu'on a dans la profession. Et on a nos céréaliers qui sont dans des situations très compliquées. Le prix d'intervention sur le cours des céréales en fait, n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Plus largement, on veut de la simplification administrative, ce qui avait été demandé, ce qui avait été promis il y a 2 ans. Et puis on a ce Mercosur qui arrive la semaine prochaine. Et celui-là, eh bien, on ne l'accepte pas non plus parce que c'est la mort de nos territoires, la mort de la bonne alimentation artisanale comme on sait la faire. Et c'est de la malbouffe aux hormones avec des antibiotiques, des produits phytosanitaires qui ne sont plus acceptés ici en France et en Europe depuis des dizaines d'années. On se voit pour nous pour les générations à venir.
La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a exprimé sa compassion vis-à-vis des éleveurs dont les cheptels ont été touchés par la dermatose nodulaire contagieuse bovine. Annie Genevard affirme que la maladie est désormais sous contrôle et qu'il y a suffisamment de vaccins. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos sera Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans le monde avec cette nouvelle fusillade aux États-Unis. 2 personnes ont été tuées par des tirs dans l'université de Brown, l'une des plus prestigieuses du pays. Bilan lourd donc, 2 morts mais également 9 blessés. Tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales qui n'ont pas encore arrêté l'auteur des tirs. Sur les 9 étudiants blessés, 8 l'ont été grièvement mais sont dans un état stable. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour arrêter le tireur, toujours en cavale. Donald Trump, le président américain, a déclaré « Quelle chose terrible, tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est prier pour les victimes ». Fin de citation. Une bonne nouvelle pour les Britanniques. Le roi d'Angleterre va mieux. Et il l'a dit dans une vidéo de près de 5 minutes diffusée pour tous les sujets de Sa Majesté. Les derniers examens dans le traitement de son cancer sont positifs.
Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle. Grâce à un diagnostic précoce, à une intervention efficace et au respect des prescriptions médicales, mon programme de traitement contre le cancer pourra être allégé au cours de la nouvelle année.
Et pour rappel, le souverain britannique, âgé de 77 ans, avait été hospitalisé en janvier dernier et avait appris être atteint d'un certain type de cancer. Charles III a profité d'annoncer cette nouvelle pour inviter la population à ne pas hésiter à aller se faire dépister contre le cancer. Il est 18h, une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Et tout d'abord en métropole et dans le monde, on va commencer avec du handball au féminin. Mais l'équipe de France qui tentera ce soir pour nous de décrocher une médaille au championnat du monde, Lionel Sabot.
Oui, les Françaises qui sont encore quelques heures championnes du monde en titre tenteront surtout de ne pas rentrer bredouille de cette nouvelle campagne mondiale. Les Bleus et Suzanne Wojcicki joueront ce soir la petite finale de la compétition, le match pour la troisième place de ce mondial 2025. Pour tenter de décrocher le bronze, les Françaises devront s'imposer sur les Pays-Bas. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées dans le tour principal de la compétition. Les Françaises s'étaient imposées. France-Pays-Bas, match à suivre tard ce soir pour nous. Coup d'envoi de la rencontre, 20h30. La grande finale verra une confrontation entre l'Allemagne et la Norvège.
Le Sport Co, c'est aussi du rugby avec la suite de la deuxième journée de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby.
Et quatre clubs français qui seront sur les pelouses européennes cette nuit et demain matin pour nous. Castres recevra Édimbourg, Toulon accueillera Bath. Bayonne sera en déplacement sur la pelouse des Harlequins. Enfin, la section paloise se déplacera à Bristol. Ce matin, le Stade toulousain s'est fait doucher sur la pelouse de Glasgow. Les Rouges et Noirs qui menaient 21-0 à la mi-temps se sont finalement inclinés 28-21. À noter également ce matin la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est largement imposée 50-21 sur les Gallois des Scarlets de Clanecly. En revanche, défaite pour La Rochelle et Clermont, les Maritimes ont été battus 42-21 par les Sud-Africains des Stormers. Quant aux Auvergnats, ils se sont inclinés à domicile 35-14 devant les Anglais de Sail.
Du football également avec la fin demain matin pour nous de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1.
Et 5 matchs seront au programme de cette fin de dernière journée de championnat de l'année. Oui, ça sera fini pour 2025. Tout commencera par le déplacement du Havre sur la pelouse de Lyon. Auxerre recevra Lille. Strasbourg recevra Lorient. Nous suivrons également le déplacement de Nice qui est en pleine crise sur la pelouse de Lens qui tentera de reprendre sa place de leader du championnat. Le dernier match de la matinée verra une belle confrontation entre Marseille et Monaco. Ce sera bien évidemment au stade Vélodrome. Rappelons que ce matin, le PSG a repris provisoirement la première place du général après sa victoire très laborieuse, 3-2 sur la pelouse de Metz, la lanterne rouge de la Ligue 1. Rennes, de son côté, a remporté le derby de la Bretagne en s'imposant 3-1 sur Brest. Enfin, Toulouse est allé l'emporter 3-0 sur la pelouse du Paris FC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont-d'Or, c'est le 100.4.
Le sport côté calédonien, hors du territoire de la natation avec des podiums déjà pour des Calédoniens au championnat de France junior dans la ville d'Angers en métropole. Chrysander Cerda s'est imposé sur le 100 mètres papillon. Renzo Eden Mufana a décroché l'or sur le 100 mètres brasse. Et Yaron Nodange est devenu champion de France junior du 50 mètres brasse. La compétition se poursuit tout le week-end dans les bassins d'Angers. Sur le territoire du basket, au féminin, avec le deuxième acte de la finale du championnat de Calédonie entre le Mont-d'Or et Rivière-Salée demain. Hier, les Mondoriennes ont battu les joueuses de Rivière-Salée 75-49. Les tenantes du titre vont tenter de conserver leur couronne pour la deuxième année de suite, à condition de garder leur avantage sur leurs adversaires.
Moi, c'est l'INSEE Tétouanoui, capitaine de l'équipe Mandor Basket Club. Fallait aller la chercher, c'était important pour nous, surtout après la Coupe Zone qu'on vient de subir à Tahiti. Donc là, nous, notre seul objectif, c'est d'aller chercher cette victoire encore le lundi pour mieux se préparer parce que on a quand même une victoire à aller chercher pour la Coupe Zone là, pour l'année prochaine. Ça sera plutôt au niveau mental, garder le mental, avoir un body language du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de lever la tête et non pas de baisser pour chaque action, chaque panier raté, mais toujours continuer, lever la tête, ça c'est important ça pour l'équipe. On peut avoir un troisième match parce que c'est vrai que l'équipe adverse, elle nous a quand même surprise, notamment contre les quarts de finale, puis ensuite la demi-finale où elles ont battu quand même la sixième. Donc il peut y avoir un effet de surprise. Mais là, nous, on garde le mental et surtout le mot d'ordre. Je pense que c'est focus jusqu'au bout.
Un match 2 des finales féminines prévu donc demain soir à la salle Omnisport de Lens-Vata. Hier, chez les messieurs, l'AS d'Imbéa Basket a remporté son 8e titre territorial en remportant le 2e match contre Rivière-Salée 102-76. C'était l'occasion pour le coach de d'Imbéa, Benjamin Guy, d'annoncer qu'il laissait sa place sur le banc des champions de Calédonie.
On a fait le strict minimum. Mais voilà, il y a un strict minimum avec 26 au final, donc il y a plein de coachs qui pourraient se contenter de ça assez facilement. Voilà, bon, match toujours un peu piège, on sait nos erreurs défensives, on le voit encore là. Après, à quoi c'est dû, je sais pas. Peut-être un match comme ça pour terminer, une année assez longue pour nous. Puis c'est un titre vraiment particulier en fait celui-là, parce que ça marque le début et puis une fin. Donc ça change beaucoup, c'est le début d'une association en fait entre les jeunes qu'on peut avoir avec nos fameux 3 ou 17 qui viennent de monter et les anciens du club, mais ceci une fin parce que ça y est, l'ère Spartiate et Benjamin Guy, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Moi, c'était mon dernier coaching avec les garçons là. C'est un ticket particulier, mais voilà, qui a le mérite d'exister et voilà, effectivement pour moi, ouais, c'est clap de fin. C'était ma dernière sur le banc des garçons. Encore une saison pleine pour les garçons, un nouveau titre de champion territorial, la zone Pacifique, qui fait que l'année prochaine, c'est encore Paris, c'est recevoir encore Tahiti. Donc là, ça continue pour le club. Là, avec un groupe encore qui, je pense, a de belles choses à faire dans les années à venir.
Les joueurs de d'Imbéa qui avaient décroché une large victoire dès le premier match face à Rivière-Salée, 108-74, à peine une semaine après leur retour de Tahiti où ils s'étaient imposés contre Excelsior dans la Coupe de la zone Pacifique. Ce dimanche, la pétanque est au menu au Mondeur avec la Nessian Cup sur le boulodrome de Boulari. Un concours en triplette mixte pour réunir les fans de la discipline, mais aussi intéresser les féminines. C'est l'un des objectifs de la Ligue, dont la présidente est Ingrid Laurent.
Le principal objectif de la Nessian Cup, c'était de mobiliser des femmes qui ne sont pas licenciées. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir une dizaine de visages qui sont nouveaux. Le fait est que, lorsque on analyse un peu les chiffres de la Ligue, il manque cruellement de femmes. Faut bien compter 200 hommes pour même pas 100 femmes. Donc le but de la Nessian aujourd'hui, c'était d'attirer le plus de femmes et puis les inciter à s'intéresser de plus en plus à notre sport. Et Paris gagner aujourd'hui parce qu'on gagne une dizaine de visages et c'est très rare, surtout pour des tournois tels quels. C'est vrai que pour augmenter la visibilité, on avait fait un concours sur Facebook, donc on leur a demandé de trouver un slogan qui rimait avec Nessian Cup. Et en contrepartie, s'ils apportaient le plus de j'aime, c'est eux qui gagnaient la triplette gratuite. Ça a super bien marché et puis ça a surtout bien médiatisé l'événement, donc c'est ce qu'on cherchait aussi à mobiliser la plupart des gens. Donc voilà.
Un tournoi organisé par la SPTT Pétanque de Nouméa, 42 équipes sont en lice dans ce tournoi. Allez, encore quelques résultats, il y avait de l'haltérophilie hier au Mont d'Or, les championnats de Calédonie, 34 lifters en lice, dont 10 jeunes chez les moins de 13 ans, 12 chez les juniors. Demi Dabin a décroché le titre chez les féminines seniors, tout comme Sylvain Duclos chez les messieurs. La Coupe de Noël se disputait hier en Baie-de-Sainte-Marie avec près d'une vingtaine d'équipages V6 et V3. Chez les jeunes, la victoire en V3 du club de Toipin devant l'équipage de la Sato et la troisième place pour un deuxième équipage de Toipin. En Open V6, victoire de l'équipage de Geffroy barré par Albert Minguet devant les deux équipages de Toipin. En catégorie V3, victoire de l'équipage des Îles Soulevent devant l'Olympique Vaham. Et puis, une épreuve pour le fun. En natation, la Citronnade se déroulait hier soir à Nouméa. Plus de 150 nageurs s'étaient donné rendez-vous pour participer à cette édition 2025. À 18h, passé de 8 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cette nuit sur l'ouest, le ciel se dégagera progressivement, même si une inverse restera possible en soirée sur la pointe nord-ouest. Ailleurs, le temps restera sec, mais des passages nuageux remonteront sur l'extrême sud, les Loyautés et la côte est, apportant quelques ondées, surtout en fin de nuit. Le vent de sud-est mollira au fil des heures, soufflant entre 10 et 15 nœuds et devenant faible sur l'ouest. Les températures minimales évolueront peu, généralement entre 22 et 25 degrés et pourront descendre jusqu'à 18 degrés sur l'ouest. Demain matin, un large soleil dominera sur l'ensemble du territoire. Toutefois, une inverse matinale restera possible aux Loyautés sur le nord-est et l'extrême sud. Le vent de sud-est s'établira autour de 15 nœuds en général, tout en restant plus discret en début de matinée sur le nord-ouest et la façade ouest.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal.